Alors, dans quoi de neuf depuis 2013 avec Begins? Quoi de neuf?
Une nouvelle équipe, sauf qu'on est les mêmes musiciens et qu'on va sortir un album dont on est fiers. Alors certainement on a déjà dû dire ça de It Begins et encore de l'album d'avant, mais là on est encore plus fiers que les albums d'avant.
D'accord. Donc justement si on revient un peu sur la période It Begins, que ce soit l'écriture, l'enregistrement, la tournée, et si vous aviez à retenir qu'un souvenir de cette période-là, qu'est-ce que ça serait ? Esprit de synthèse ?
Bah, là c'était la rencontre avec Jack Douglas en fait, c'était évident parce qu'on était tellement stressés à cette époque-là de bosser avec un mec comme ça qu'on a, on a bossé la musique comme des fous pour pouvoir être au niveau, parce qu'on nous avait dit que de toute façon si on était nuls il arrêterait vite fait, et ouais c'est cette rencontre au départ ultra stressée. Les premiers moments on a commencé à travailler les chansons pour de vrai qu'il avait entendu auparavant en démo, chacun était un peu dans son coin, et puis quand on a vu que la première s'est dit ouais, bah tout va bien, ça se passe, etc., la glace s'est rompue quoi. Mais je pense que c'est vraiment ça la rencontre.
Vraiment.
D'accord. Sinon, vous me tendez un peu la perche. Donc, pour Illis, vous avez retravaillé avec lui.
Ouais. C'est lui qui a retravaillé avec nous parce qu'on n'a pas eu le choix. En fait, il nous a dit non, mais il n'y a pas moyen. Parce qu'au départ, on disait au niveau budget, comme justement on avait changé de situation, et notamment on retournait dans une autoproduction, ça va être un petit peu dur de pouvoir retravailler avec toi. Il a dit non, mais il n'y a pas moyen, vous bossez avec moi, on va trouver le moyen, on va trouver l'arrangement pour que ça se fasse, et vraiment il nous a pas laissé.
C'est vrai qu'au début on avait dit qu'on hésitait, il dit non ça va être avec moi, vous allez venir, et puis et même s'il faut faire des concessions.
Il a viré les autres producteurs parce qu'on voulait on pensait à d'autres producteurs connus, mais il a fait non vous pourrez pas bosser avec lui, il est trop cher, etc. Et donc il s'est vraiment mais il s'est battu vraiment pour le faire celui-là, c'est assez marrant.
Et donc bon, alors maintenant vous étiez en confiance, vous connaissiez
totalement.
Est-ce que l'ambiance, la façon de travailler en studio a été modifiée par rapport à It Begins?
Oui. Bah parce que déjà le groupe était en contact direct avec lui, alors que par le passé en fait on avait des intermédiaires. Donc comme je te disais, il y avait une structure autour de nous et donc c'était assez difficile. Là on a travaillé vraiment très simplement. C'était très direct.
Parce que finalement on avait déjà tout bien maquetté. On avait pratiquement l'intégralité des idées au niveau des mélodies et des rythmes. Et il a concrétisé le...
Puis on avait une confiance mutuelle aussi.
Ouais, voilà. Parce qu'on s'était déjà connu.
Mais ce qui était nouveau, par exemple, c'est que le mixage, l'album précédent, on avait enregistré avec Jack Douglas aux États-Unis. Il était parti avec les bandes, il avait fait le mixage lui-même. Alors que là, tout le processus d'enregistrement s'est fait avec lui. Et le mixage, on était à côté aussi. Surtout Swan.
Alors que sur le Begin, vous aviez le produit fini
exactement,
à la fin. Et
exactement.
Vous avez
voilà.
D'accord. Et c'est un producteur de renom, on ne rappelle pas forcément les groupes. On peut discuter avec un mec comme ça, dire tu proposes ça, mais est-ce qu'on peut pas.
Non, il faut mettre les formes. Tu peux pas aussi. Non, ça c'est pas. Par contre, c'est très difficile parce que lui, les producteurs, surtout américains, ils ont l'habitude de faire la chanson, c'est-à-dire que les musiciens arrivent avec des idées, mais à la fin, c'est eux qui font la chanson.
Parce que tu payes finalement le savoir-faire, le packaging, donc tu sais à peu près que. Il va travailler d'une certaine manière.
Parce qu'on voit par exemple avec Aerosmith, il arrive avec des riffs, puis il enregistre. Puis à la fin, c'est lui qui dit bon bah tiens, on va faire ça, on va mettre une voix là, et c'est lui qui construit la chanson. Aux États-Unis, c'est comme ça. Donc le musicien a pas trop le dernier mot. Ah nous, on était dans une situation bizarre parce qu'on était en même temps aussi producteur parce que voilà, c'était nous qui payions en même temps. Et en plus, on a eu toujours l'habitude de faire des démos qui sont ultra abouti, enfin avec les moindres détails. Donc dans ce cadre-là, à un moment, il te dit ça c'est une idée à la con. Souvent c'est cette chanson c'est pas possible. Vous pouvez pas la faire parce que on avait par exemple prévu une reprise un peu exotique. Il a fait non mais ça avec ces paroles-là, Swan ne peut pas chanter ça. Il a l'air con quand il voilà des choses comme ça. C'est très direct, mais c'est très direct, c'est la chanson, la dégage.
D'accord, et c'est pas frustrant pour vous ? Enfin, ça fait partie du package de vous.
Non, oui, parce qu'à un moment. Mais non, mais sérieusement, je crois qu'il y a eu très peu de frustration. C'est, quelques fois, c'est des petites choses où on dit, bon, voilà.
C'était sur des manières d'enregistrer, des manières de jouer, mais quelque chose, une idée qui était déjà là. Quoi. Comment jouer bien un solo ? Comment accorder juste un tout petit peu la guitare un peu plus, un peu moins ? Comment faire rythmiquement un peu moins propre pour que ça fasse plus réel ou un peu plus pour que ce soit vraiment carré.
D'accord. Ok. Donc, restons sur l'aspect business. Donc, comme tu disais, vous avez repris la main, mais vous signez en distribution avec UDR.
Non, en licence.
En licence, pardon, ouais. Donc, donc vous fournissez un produit fini.
Ouais.
Eux, ils distribuent avec leur voilà, réseau. Ouais. Pourquoi ce retour et c'était important pour vous de reprendre la main sur l'ensemble de votre business?
Oui, parce que déjà, nous, on sortait de chez Sony. On n'avait pas un album suivant chez Sony.
Quand le contrat s'était arrêté.
Voilà, voilà, ouais. Voilà, exactement. Donc, y avait, la question, c'est est-ce que tu fais. En fait, c'est est-ce que tu vas démarcher des labels pour trouver un label qui va trouver un financement pour enregistrer un album et on y est encore 2 ans après quoi. Ou est-ce que tu te dis bon bah tu prends les choses en main, tu fais le tout et puis voilà, tu refournis un truc terminé. Je crois que ça se passe quand même de plus en plus comme ça.
Ouais, voilà.
Surtout si c'est un nouveau dans le cadre de la recherche d'un nouveau label. Et en plus là nous on voulait absolument bosser avec un label étranger à dimension internationale sur cet album. Ce qui n'avait pas le cas dans l'album précédent.
Et pourquoi UDR ?
Pourquoi UDR déjà ? Parce que y a des signatures un petit peu de renom quoi. C'est intéressant de bosser avec des Allemands, je crois.
Vous voulez jouer au Wacken ou...
Ah bah ça, si on peut jouer au Wacken, on sait.
Ça fait partie des idées, hein. Bien sûr, ces idées-là.
D'accord, et puis en plus, ils ont un joli réseau de distributeurs.
Bah, ils ont c'est le réseau Warner, donc c'est quand même vachement bien, quoi. Avec cette possibilité, on a frappé à d'autres portes, mais c'est vrai que là, l'Allemagne, c'est pas trop loin. Le bureau, en plus, la personne qui s'occupe de nous, elle a le bureau en Angleterre. Donc c'est intéressant parce que ça, il y a plusieurs pays vraiment facilement touchés déjà.
D'accord. Et sans dévoiler de secret, vous aviez discuté avec plusieurs labels.
Ouais. Il y en a qui sont même passés aux États-Unis, qui sont passés
le produit.
D'accord. Ouais. Ça fait plaisir même.
Ah, complètement.
Sur le coup, t'es super content de voir qu'il y a vraiment une personne qui s'occupe du rayon métal, du rayon rock, du rayon hard rock qui vient écouter ta musique, même si au final c'était pas eux qu'on a retenu. Ça fait quand même plaisir de voir qu'ils existent.
Et avec UDR, vous signez sur des styles d'un album ou c'est
Ah non, le but c'est d'en faire plusieurs.
Plusieurs avec eux.
Ouais, mais parce que nous, on a envie ça, d'avoir une structure solide.
D'accord, maintenant avec un peu le retour que vous avez un peu, même si bon, je verrai la sortie, etc. Ouais. C'est votre environnement idéal pour bosser. Vous contrôlez tout, vous fournissez un produit final et après eux de faire le boulot.
Bah, c'est parfait, jouer comme ça.
Ouais, on sait faire de la musique, après c'est eux de savoir la faire connaître et de la distribuer. Quoi.
Mais ça va plus loin parce qu'il y a les clips, il y a l'image, les photos, on a tout filé, quoi. Le livret, les photos, la pochette, les clips, c'est absolument tout. Quoi.
D'accord. Donc justement pour entre guillemets faciliter votre ambition, vous êtes passé par du crowdfunding. Est-ce que ça vous est semblé un naturel et deux, est-ce que on a déjà peut-être donné la réponse, mais on va essayer de voir un peu plus loin. Est-ce que vous pensez que c'est l'avenir du music business, c'est-à-dire reprise de contrôle de leur musique par les artistes et puis après chacun fait son métier en marketing, en distri, etc.
Ben, je pense que c'est sûr que alors déjà aux États-Unis et même dans d'autres pays, il y a énormément de groupes qui font appel à ça, et des grands groupes qui font appel à ça. Enfin, je veux dire, la liste, faut prendre déjà toute la liste de pledge, mais enfin et des groupes même voilà qu'on connaît. Donc déjà, la réalité c'est que on était un des seuls ou un des premiers Français à passer en tout cas par ce site-là. Mais c'est quelque chose d'habituel qui est déjà rentré dans les mœurs. Donc ça c'est clair. Après justement l'idée de, moi je pense que c'est une idée plus générale avec Internet. L'Internet a un peu cassé les intermédiaires, toute cette chaîne d'intermédiaires de l'ancien, on va dire music business. Et aujourd'hui t'es quand même très en contact assez direct avec le public. Mais ça, c'est vrai pour la musique, mais c'est vrai dans d'autres choses. Hein. Enfin, tu vois ce qui se passe, par exemple, avec les AMAP. Quand t'achètes à ton producteur des poireaux ou des choses comme ça, moi, je trouve que c'est le futur. Et là, justement, c'est d'être directement, dans l'idéal, directement du producteur au consommateur, dans tout ce qu'on fait. Et le réseau Internet permet ça. Donc, à terme, je pense qu'à terme, ouais, il n'y aura même plus besoin de label.
Mais est-ce que l'étape suivante serait pas de tout dématérialiser ? Vous êtes encore
totalement. Ouais.
Vous êtes attaché à l'objet ou
non ? Enfin, tout dépend. L'objet, c'est le public qui est attaché déjà. Donc ça, c'est moi personnellement pas du tout. J'ai rien. Moi, j'ai rien.
Ça fait longtemps que. J'ai arrêté la collection de CD. On les a toujours les CD, mais.
J'ai un ordinateur et j'ai même pas de. C'est même pas sur mon disque dur. C'est sur des clouds et des trucs comme ça.
Spotify et Deezer et machin comme ça.
Ah, totalement. Enfin, moi personnellement.
Mais alors, peut-être question de ça, mais vu du côté du. Moi, non, pas qu'ils soient ennuyés, c'est pas la mort des groupes Deezer et Spotify.
Bah, les groupes maintenant, ils vivent en faisant des concerts, en vendant du merchandising, c'est ça le truc. Quoi. Le CD, c'est surtout un moyen de se faire connaître et de faire circuler l'information.
Non, mais le live, c'est quand même le truc le plus génial qui soit. Ouais. T'as beau écouter un album 100 fois, enfin, quand tu vois un groupe en live, l'expérience, elle est. On peut pas la changer, celle-là, je crois. Vraiment, moi, je trouve ça. Je trouve que la musique, elle prend vraiment une dimension quand tu l'écoutes live. Mais le reste, après, on n'a jamais écouté autant de musique et c'est quand même une chance. C'est pas forcément une chance pour les finances, mais c'est une chance pour la musique. On n'a jamais écouté autant de musique qu'aujourd'hui, partout, et on a possibilité d'accès. Même des groupes que j'écoutais à l'époque, j'ai découvert des face B, des trucs comme ça. À l'époque, il fallait habiter à Paris pour avoir accès à ça. Nous, on venait de Haute-Savoie, je veux dire. Là, j'ai vu, mais là récemment encore, j'ai téléchargé des trucs avec des chansons cachées, de trucs que j'avais jamais entendu. Et Internet, c'est génial pour ça. Enfin, moi, je trouve.
Et release, vous sortirez en vinyle ou vous restez sur
le. Ouais. Parce que le vinyle, ça, par contre, c'est quand même.
C'est un bel objet.
En fait, le CD, c'est un objet moche. Voilà. Mais le vinyle, c'est vraiment.
Une sorte de gros poster.
C'est vraiment la musique qui est complète, qui est écrite dans la matière. Quoi. Je trouve que c'est l'objet en lui-même, là, il a un intérêt. Mais l'intérêt du CD, je le trouve assez.
Deux choses. Pourquoi le choix de Fred ? Pourquoi vous êtes passé par ce site-là alors qu'il y en a plein ? Et après, est-ce que dans le retour de vos contributeurs, est-ce que vous avez été surpris, je ne sais pas, par leur origine ? C'est très français, c'est européen, c'est mondial, c'est très. Voilà. Est-ce que vous avez une surprise peut-être par l'origine géographique ?
Bon, y a toujours la moitié quand même de français, ça c'est certain. Au moins, après, c'est sûr qu'il y a des gens qui pledgent depuis les États-Unis, justement parce que le site. Le but de pledge était de passer par une plateforme qui est vraiment une visibilité internationale, et on connaissait déjà pas mal de groupes qui faisaient ça justement, donc on a un peu suivi ces groupes là, mais après c'est certain que quand tu vois des gens qui à l'autre bout du monde aux États-Unis connaissent déjà tout toi, achètent des trucs. Enfin, moi j'ai un exemple complètement fou, mais t'as des gens qui viennent d'une réserve indienne au milieu du Canada. Et qui non seulement pledge pour le groupe, tu vois, mais en plus après nous recontacte pour nous demander d'aller jouer au mariage de leur fille qui est fan du groupe au milieu de nulle part des bois du Canada, quoi. C'est fou, quoi. C'est génial, enfin c'est un truc comme ça, quoi, tu vois. Je sais pas si justement avec une plateforme plus française on aurait eu
avec
My Major Company, tout ça, on aurait eu cette possibilité. Parce qu'ils font, ils sont vraiment forts pour pousser, pour mettre en avant, et puis ils mettent vraiment les groupes, ils les mettent à des moments en avant, ils font un travail eux-mêmes de marketing.
Un peu comme Dailymotion par rapport à YouTube. Bien en avant,
ouais, là c'est l'océan où chacun se débrouille, voilà. Et déjà il y a une sélection selon ce
qu'on a. Voilà.
Alors pour Illist, mais peut-être pour les précédents albums, sinon, comment naît en général une chanson de Black Rain? Quel est le process?
Là t'es pas avec la bonne personne, parce que quasiment en fait, bon, c'est quasiment tout est composé par notre chanteur, par Swan. Si nous on a des idées, on lui envoie, et il en fait lui-même, il le reprend à sa sauce, et il fait tout sur son ordinateur, en fait.
Mais il vient avec un produit déjà très avancé, ou
fini.
Une brique D'accord, ok.
Et après, à partir de ça, nous, on se dit, ouais, bah, on changerait, on discute maintenant, on joue pas en fait. Ah, on ne sait pas, on répète. On dit, oh, maintenant, on changerait ça. C'est lui quasiment qui enregistre tout à ce moment-là de la maquette. Parfois, il demande de réenregistrer, je sais pas, une ligne de basse. Tiens, t'as une idée, bah, réenregistre là, envoie-la moi. Ainsi. Ou solo très souvent, oui, bon bah là j'ai besoin d'un solo, faites-moi un solo, il envoie les parties de batterie et puis tu les remodifies.
Après chacun remodifie ses propres parties,
voilà.
Et on met des idées voilà. Plus en adéquation avec notre instrument.
On discute ensemble sur le morceau, mais lui déjà il a un truc, quand il prête un truc c'est déjà ultra abouti.
En fait on peut tout enregistrer sauf la batterie et tous les autres instruments comme des violons, des percussions, des trucs qu'on a dans des logiciels.
D'accord, oui, ok, donc c'est très...
Mais il n'y a pas de répète où on a des idées arrivent et des trucs comme ça.
D'accord, c'est pas un récit de jam ou de...
Non, bah parfois, parfois tu as un truc, tu as une idée que tu balances et puis ça donne une chanson, ça arrive.
Mais par exemple, il y a certains groupes qui créent lors des balances avant un concert. Ça vous arrive d'être fait des trucs?
Non, parce qu'on n'est pas... On jamme pas, en fait, on n'est pas du tout des jammes.
D'accord.
On n'est pas du tout comme ça, en fait.
C'est dommage, hein.
C'est vrai que des fois, moi j'aimerais bien. Il y en a un qui aimerait bien. Mais nous, on n'aime pas.
Peut-être que vous savez, mais est-ce qu'il il compose en tournée ou non? Il doit être chez lui tranquille.
Majoritairement dans ses toilettes.
Ah,
non, c'est vrai, en sifflant avec sa guitare. Non, mais c'est vrai, en sifflant avec sa guitare.
Donc c'est lui qui a son iPhone blindé
d'idées, de trucs à ça. Ouais. Et puis voilà, parfois on lui envoie, parfois il a pas d'idée de parole, là il me fait des paroles, donc il chante un yaourt. Moi j'aime bien faire ça, il chante un yaourt et j'essaie de retrouver ce qu'il a voulu dire avec son yaourt. Et du coup, j'essaie de trouver des paroles qui sont pas loin du yaourt. Quoi, quand il dit tu retrouves
poétiquement, c'est le construire.
Voilà, un truc qui a un sens, mais c'est vrai. On l'a fait plusieurs fois et ça marche bien. En plus, ça donnait des bonnes paroles. Tu vois, mais ouais, c'est. Je vois pas d'autres trucs sur le processus. Ouais.
D'accord. Et finalement, en termes de calendrier là pour Illist, combien de temps il a fallu pour que tout ça émerge? Enfin voilà, quand vous avez vraiment commencé à bosser dessus? Enfin voilà.
Il y a deux ans, parce que dès que InBegin c'était fini, il y a déjà toujours c'est toujours arrivé qu'entre le moment où on enregistre un album et le moment où il sort, il y a au moins un an. Donc entre temps, tu vois, là il y a déjà plus de la moitié du prochain album qui est déjà composé, quoi.
D'accord.
Voilà, et donc c'est à peu près, voilà, il faut à peu près deux ans pour qu'un album arrive en entier.
En tout cas, released. On a fini de l'enregistrer pile poil le mois de l'année dernière, janvier de l'année dernière. Tu vois, ça
fait déjà plus de 6 mois qu'il attend, quoi.
Qu'il attend
d'être. Il était mixé en mars et ça fait un an que je l'écoute dans mon album. Alors il y a un truc qui est bien, c'est que ça m'est jamais arrivé, ça fait un an que je l'écoute vraiment tout le temps en fait. Et je l'aime bien.
Et finalement, ce temps d'attente pour qu'il sorte. C'est parce que c'est les plannings des labels, c'est négocier.
Et là, il fallait trouver.
Le lancer, quoi, pas que ça fasse un album de plus qui soit pas bien présenté, exploité.
D'accord.
Bah alors, justement, en espérant qu'on réussisse maintenant à trouver un label avec qui on travaille pour réduire ce temps, parce que c'est pénible. C'est pénible parce que t'as déjà plein d'idées sur plein d'autres trucs.
Oui, dans la tête, t'as déjà quasiment posé sur le suivant. Déjà...
Totalement, ouais.
D'accord. donc voilà, c'est ça qui est intéressant, avec donc, quasiment 9 mois ou un an de recul. Donc tu me dis que tu écoutes pas mal d'albums, mais tu l'écoutes en disant en frustration, en disant genre j'aimerais tout changer ou modifier certaines choses.
Non, même pas. Vachement bien. Justement, je trouve qu'il est vachement bien.
On a hâte de voir le retour du public sur les chansons de ce genre-là. Ouais.
Et je sais juste pas comment il va être reçu. Juste une peur, parce que je me dis c'est tellement varié et parfois c'est tellement difficile à classer. Il y a des chansons, je sais pas comment elles peuvent être reçues. Tu vois, il y a des trucs qui nous sont vraiment personnels. Il y a une chanson par exemple qui s'appelle Electric Blue, que moi j'adore, mais qui sonne très dans les trucs années 60, parce que c'est un truc qu'on a toujours adoré, tu vois, les films de David Lynch, etc. Et déjà sur l'album It Begins, il y en avait un peu. Là, je sais qu'on en a encore des nouvelles qui arrivent. Et moi, j'adore cette ambiance, mais je sais pas trop comment ça va, ce genre de choses peut être reçu par un public.
Il y a des chansons rapides qui tabassent, il y en a des mid-tempo, il y a des balades et des chansons un petit peu plus en dehors des sentiers battus.
D'accord. Enfin, vous avez eu une certaine sécurité en sortant comme premier single Back in Town, ouais. Qui est assez dans la continuité.
Ah, ça c'est direct.
C'est le Black Ray, la
voilà. Ouais.
Mais on est en tout cas à chaque fois content et on veut et on a choisi de mettre telle et telle chanson dans cet album parce que c'est des chansons qui nous plaisent à tous dans la globalité. Et parce qu'on voulait quelque chose d'assez varié, parce que finalement on aime tous le métal, on aime tous des musiques plus posées, mais écouter par exemple pendant une heure du black metal tout le temps, ou écouter pendant une heure que des balades, c'est un peu chiant. Là au moins,
ouais, moi j'arrive pas. En plus, parce qu'on est vachement, nous, c'est vrai qu'on est, c'est un truc qui change avec les générations, mais on fait des playlists et donc en fait t'écoutes de, enfin il y a 2-3 albums que j'écoute en entier, mais c'est rare. Hein. Un album j'arrive à écouter vraiment.
Donc dans votre tracklist, vous cherchez cette variété aussi,
ouais.
Du même disque.
Ouais, vraiment. Ouais. Ouais.
D'accord.
Ouais, vraiment.
On s'ennuie pas, quoi.
Ouais, bah, plutôt réussi. Donc, maintenant vous avez l'habitude de retourner des vidéos. Vous aviez fait Overloaded, vous avez fait là, récemment, ouais. Back in Town. C'est un exercice un peu particulier. On fait des choses encore et encore et encore. Avec le recul, c'est un exercice qui vous plaît ou c'est plus une gonflant mais obligatoire?
Ah non, alors c'est enfin je vais te couper. Enfin,
vas-y. Oh non, c'est...
non, mais en fait du coup maintenant je réalise les vidéos intégralement et c'est un peu moi c'est plus ma passion même encore que le jeu de la basse parce que c'est trop, enfin il y a rien à faire à la basse, on sent, c'est l'instrument de branle-bas.
Non mais
vraiment c'est une vraie passion, c'est une vraie passion la vidéo. J'en fais aussi à côté et là on a tourné un aux États-Unis, c'était quand même un défi de se dire on va tourner un truc aux États-Unis, on a passé la caméra. Enfin, j'ai pris ma caméra. Alors, toi, donc, c'était un peu difficile parce que passer des trucs, du matériel aux États-Unis, c'est toujours un peu la merde. Mais je me suis dit déjà au moins avoir la caméra. Après, il fallait trouver des gens avec qui bosser sur place, alors qu'on connaissait ces personnes. Donc, c'est un vrai, c'est une vraie gageure en fait à faire. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Enfin, moi, personnellement, je pense le truc qui me frustre pas, c'est que sur cet album, j'aurais envie de faire une vidéo par chanson. Quoi.
Peut-être qu'on le fera au final. On sait pas. Je sais qu'il va y avoir certaines chansons, il va y avoir des clips.
Mais il y a... Attends, bah là, il y a... Donc, on a fait Back in Town, il y a Killing Me là, qui a été tourné aux États-Unis. On a fait un clip avec un gospel donc sur One Last Prayer sur la dernière.
Là-bas, vous avez profité pour faire un gros package.
Voilà, dommage, voilà, c'est
avec
ça.
Avec le dossier américain, avec fin, tellement de bons ingrédients pour faire la vidéo là-bas.
Et il y a une vidéo dessin animé sur Rock My Finger en temps. Ça, c'est tout ce qui est en route. Et après, il y a d'autres qui sont en route, mais il faut réussir à les terminer. Et c'est toujours pareil, parfois tu n'y arrives pas. Parce que c'est aussi des questions de budget et puis de temps.
Je devine qu'il y a d'autres choses à faire. Ouais. D'accord, donc il y a d'autres choses qui arrivent. Alors, moi, un aspect qui m'intéresse toujours beaucoup, c'est le travail sur le visuel. Vous avez un peu mélangé tout, il y a du dessin assez simple, enfin simple, je dirais très fort en symbole et des. Là, c'est aussi une image, c'est une photo.
Ouais.
Comment ça se travaille dans le groupe, l'aspect visuel?
Alors, on s'est rendu compte quand même que sur l'album précédent, à un moment c'était allé un peu trop loin, c'est un moment où on contrôlait plus trop sur l'image. On s'est rendu compte qu'il y a des gens qui sont pas allés regarder, écouter la musique, parce que l'image était vraiment trop marquée.
Ça, cliché.
Très vraiment. Ouais,
genre,
voilà.
Ça c'est ok, c'est du.
Bah non, mais en fait, ce qui était assez bizarre, c'est que et même ça peut décevoir parce qu'on se dit oh là c'est vraiment hard rock 80. Et en même temps, il y a Steel Panthers, on s'attendait à un truc où des mecs sont un peu plus fun. Et puis c'est pas fun en fait, parce que c'est pas des blagues, ils le font quand même sérieusement, donc on sait pas trop. Donc on s'est rendu compte que l'image était quand même pas top. L'image pouvait bloquer la musique. Donc là, on s'est dit, on va essayer de faire un truc un peu plus sobre, et puis même essayer de bosser avec un artiste qui nous trouve. Un angle. Et puis nous, on est quand même. On n'est pas né dans les années 80, quoi. Nous, on vient des années 90, quoi. Et donc, ce qui a été génial, c'est qu'on a eu l'opportunité de rencontrer Dinka, qui est le photographe Dinka, qui a fait toute l'image de Marilyn Manson, le premier clip, etc. Et puis après, qui a fait des. Enfin, il a des tonnes, Vulgar Display of Power, enfin, il a fait des. Mais c'est vraiment plus années 90. Et on l'a rencontré, et ce qui est génial, c'est qu'on s'est rendu super bien entendu que c'était un mec génial et donc il nous a fait toutes ses séances photos et chaque photo était cool, donc on était content. Donc du coup là on contrôlait plus rien, on lui a laissé et ce qui en est ressorti c'est qu'on était et c'est exactement ce qu'on voulait, ça allait bien avec donc c'est plus simple, il y a moins de paillettes, c'est peut-être un peu plus brut au niveau de l'image quoi, c'est toi il y a Mais du coup, je pense que ça colle vraiment même plus avec nos personnalités, parce qu'il a pris le temps aussi de passer des soirées avec nous avant.
D'accord, pour prendre le groupe.
Ouais, vraiment à regarder des vidéos à la con à la télé. Enfin, on a passé du temps à manger des pizzas.
Juste prendre des photos et bye bye. C'est au moins comme ça, tu vois si tu matches avec la personne. Et t'as vraiment encore plus envie de bosser et plus envie de faire des conneries tout en étant sérieux le lendemain.
J'ai pas vu le livret, mais vous avez utilisé plusieurs petits clichés.
Il y en aura plusieurs dans le livret. Il y a plusieurs photos et puis il y a des. Après, j'ai fait aussi une partie graphique.
Ok. Un peu pour conclure, avant un petit quiz, une question pour mieux vous connaître musicalement. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter ou qu'est-ce que vous espérez là pour l'année 2016 pour Black Eyed?
Plein de concerts.
Ouais, plein de concerts. Plein de lives, que ce soit des petites salles ou des grandes salles, plein de lives. Avec à chaque fois des gens qui sont contents de nous voir.
Vous avez déjà des pistes, il y a des choses de.
En mars,
oui, on joue en Angleterre.
Puis on fait d'autres dates après par la suite dans la fin en Angleterre. Il y a des festivals qui s'annoncent là, on en a signé certains pour cet été, et le but c'est à la rentrée de faire une grosse tournée en France, et après d'ici là il y a des propositions de première partie, de choses comme ça, on va voir.
L'idée c'est tourner pas mal en France et puis justement à l'étranger, Allemagne ou autre, approcher une première partie pour là aussi que faire connaître.
Parce que nous en plus on a un truc, c'est que vraiment là maintenant on a tout notre notre matos, notre véhicule, notre équipe, enfin on est absolument prêt à partir.
Tu peux le voir par là-bas. Il est juste là-bas. Enfin, là, il est peut-être pas visible, mais...
Non, mais on a vraiment tout de près, totalement autonome. On nous demande demain, demain tu pars où tu veux, on peut partir où, n'importe où.
D'accord. On a des petites questions pour mieux vous connaître et vos goûts. Pour terminer, chanson préférée de tous les temps. Un titre, un truc qui vous pouvez l'écouter encore et encore.
Ça doit être un truc des Guns, mais alors lequel
Tu peux avoir Welcome in the Jungle.
Ouais, Welcome to the Jungle, je pense, des Guns. Ouais, je pense que les Guns, c'est bien.
Les deux
c'est moi, je dirais Killing in the Name. Un Jagged Edge Machine. Ouais, plus 90.
Premier album rock acheté.
Ah, moi c'était un Queen, mais lequel?
Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sugar Magic.
C'était un album de Queen, mais je sais plus lequel.
Le best of.
Mais je l'avais pas acheté, je l'avais volé.
Et le dernier que vous avez acheté? Ou écouté, accroché sur Deezer ou Spotify?
Les derniers albums que j'ai achetés, c'est vieux, parce que c'est les seuls albums que j'achète, c'est des albums en concert de petits groupes en fait. Donc ça doit être l'album de Drenalized.
Ah ouais,
avec qui on a joué.
Oui, c'est vrai ça.
Un petit groupe qui commence.
Ouais. D'accord, bon Dieu. Finalement, qu'est-ce qui vous a donné l'étincelle dans l'envie de vous mettre à votre instrument, basse, batterie? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une étincelle, je sais pas, un clip, un album, un poster de je sais pas qui.
Le fait de pouvoir s'amuser d'une autre manière, quoi. C'est vraiment juste s'amuser à la base, puis après voir que les gens ont envie de s'amuser avec toi.
Au lieu d'aller jouer au foot.
Au lieu d'aller jouer au foot ou de jouer aux jeux vidéo, même si rien n'empêche de faire l'un et l'autre.
D'accord.
Non, moi il y a deux choses, hein. C'était. C'était de voir Freddie Mercury sur scène, enfin en vidéo parce que je l'ai jamais vu puisqu'il était déjà mort. Mais dans les premiers concerts, je crois vraiment un truc, je me suis dit tiens, j'aimerais bien y aller. Alors qu'avant je regardais en tant que spectateur, mais de dire tiens, j'aimerais bien y aller. C'est un concert d'Anorexia Nervosa vers chez moi en fait, où c'était tellement le bordel, parce que c'était à la limite de la bagarre, etc. Et je me suis dit putain, les gars, ils arrivent et ils en imposent. Donc c'est un Anorexia Nervosa sur scène.
D'accord. Petite question un peu plus personnelle. Épicée.
Oui.
Chanson que vous aimez le moins de votre discographie.
Ah, de
Black Eyed.
Attends, il y en a quand même pas mal.
Ah,
il y en a quand même pas mal que t'aimes pas.
Que t'aimes pas.
Ouais.
Ça, c'est marrant parce que c'est le genre de question. Je l'ai pas entendu avant. C'est bien ça. En fait, il peut y avoir des chansons que t'aimes bien écouter mais que t'en as marre de jouer, donc après c'est pas facile de faire la part des choses. Moi, il y a une chanson que j'en ai marre de jouer en live et qu'on fera peut-être plus dans la prochaine tournée, mais c'est une chanson que j'aime bien écouter. Par exemple, Dancing on Fire, Dead Begins. J'aime beaucoup l'écouter, mais j'aime plus beaucoup la jouer, alors du coup ça influence sur ce côté-là aussi.
D'accord. Alors moi je pense que c'est des chansons qui ont été modifiées à l'époque, pas par nos soins, mais pour le live. Et qui ont même été enregistrées en live parce qu'il y avait un petit album live. Et en fait c'est les versions live de chansons que je peux plus entendre, notamment Dead Boy en ternaire.
Ah ouais, Dead Boy.
Il y a une chanson Dead Boy en ternaire qu'on a joué en... Voilà, ça c'est clair.
Et pour terminer, si vous aviez le choix d'avoir un guest mort ou vivant sur le prochain album, vous connaissez qui?
Un guest mort ou vivant?
Ouais.
Toi, tu prendrais Freddie Mercury quand même?
Non.
Même pas?
Un
guest mort ou vivant?
Mais vraiment, tu dis, tu rêves de l'avoir.
Voilà.
Ça aussi, c'est une question où on sèche. Comme tu peux le voir.
Non, mais c'est toujours vachement difficile parce que moi, ce que je trouve, c'est que ce qui est génial, c'est les rencontres musicales et c'est pas de dire tiens, t'as quelqu'un sur ton album. En fait,
c'est plus un héros musical, quoi.
Mais dire quelqu'un, t'as un héros que t'aimerais entendre. Putain.
T'as le droit de dire personne, non? Ou en tout cas, sans les connaître, les avoir rencontrés.
Ouais, je vais dire une connerie, tu vois, parce que...
Bah vas-y, dis-la, j'ai envie de savoir, ça m'influencera peut-être.
Non, je vois pas. Moi, non, mais c'est parce que c'est à chaque fois, c'est la rencontre. C'est ça qui est vraiment... C'est si jamais tu rencontres quelqu'un et tu te dis, ah putain, on s'entend bien, il faudra que tu viennes.
Bah David Lynch, alors. Peut-être qu'il fait un instrument.
Ah ouais.
Peut-être s'il fait un instrument. Bon,
ah là, oui, d'accord.
Qu'il vienne. Ou voilà, ou vous bossez ensemble, pour ça qu'il...
Bah moi, c'est ça plus pour le... Là, mais là, c'est...
Bon, bah c'est trouvé.
Là, c'est sûr que c'était David Lynch. Là, oui, d'accord.
Bah pareil. On adore Twin Peaks, on adore Mulholland Drive, on adore
tout ce genre. Non, mais qu'ils nous fassent une remix ou un truc comme ça, ou même qu'ils viennent parler sur un album, ouais, alors là, ouais, génial. Ah, oui.